Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Regard sur l'état du monde dont l'édition 2015 vient de paraître sous le titre Nouvelle guerre au pluriel aux éditions La Découverte. Nous recevons Bertrand Badie, professeur des universités à l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po Paris, auteur de nombreux ouvrages sur les relations internationales, dont le dernier, Le temps des humiliés, qui a récemment reçu le prix des géopolitiques de Nantes, et Dominique Vidal, journaliste et historien, auteur de nombreux ouvrages sur le Proche-Orient. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
J'ai noté une particulièrement grande convergence, homogénéité dans les sujets de cette édition 2015 sous le titre Nouvelle guerre, signe sans doute qu'on est là face à la réalité du monde d'aujourd'hui, une réalité aux multiples déclinaisons entre un panorama ou recensement des conflits contemporains, une analyse des facteurs belligérants ayant pour cadre les désintégrations en tout genre, institutionnelles, sociales, un étalement dans le temps, les guerres sans fin, élargissement dans l'espace, les nouveaux champs de bataille liés au changement climatique ou à la quête de ressources naturelles, élargissement encore avec le cyberespace en proie aux guerres et aux conflits. Nouvelle guerre, on a le sentiment que le titre s'est imposé de lui-même et que la guerre est presque à tous les étages, Bertrand Badie.
Hélas oui, c'est-à-dire lorsque il y a maintenant à peu près un an, nous avons défini le thème de cet état du monde 2015, le sujet des nouvelles guerres paraissait s'imposer et il n'a pas fallu faire beaucoup d'efforts pour comprendre à quel point il collait à la réalité. Mais je crois qu'il y a derrière ce qui nous a motivés quelque chose d'extrêmement complexe qui est une manière d'introduction au sujet. C'est qu'on a énormément écrit sur la guerre, mais on a écrit que sur les guerres de jadis, hélas, d'avant-hier. Le panorama a complètement changé. Les guerres ont changé de nature là où les puissances occidentales les entreprennent sur des modes périmés. Il est quand même significatif qu'aujourd'hui on célèbre avec beaucoup d'insistance la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on commémore le centenaire du début de la Première Guerre mondiale, et que celle-ci semble encore effectivement inspirer les politiques. C'est-à-dire comme si les puissances d'hier devaient faire aujourd'hui, face aux nouvelles violences, ce qu'ils faisaient avant-hier, lorsque le contexte était tout à fait différent. Il y a un point qui m'est très cher, c'est-à-dire, autrefois, la guerre, c'était une compétition de puissance, entre puissants. Aujourd'hui, les nouvelles guerres frappent essentiellement les populations pauvres et s'est déplacé sur le planisphère en descendant vers le sud et du coup exprime davantage les pathologies sociales, les échecs sociaux, les échecs du contrat social, les échecs aussi de l'ingénierie institutionnelle, plutôt qu'une compétition de puissance. Eh bien, on ne répond pas à la souffrance sociale comme on répondait autrefois aux ambitions de puissance.
Dominique Vidal.
Oui, d'abord une première remarque. Nous avons voulu depuis plusieurs années modifier un peu la conception même de l'état du monde de cette publication annuelle en évitant ce que nous faisions avant, qui était un panorama relativement dispersé des grandes tendances de l'évolution internationale, pour avoir, depuis donc 5 ans, une concentration d'articles plus homogènes, déclinant un thème particulier. Et nous avons eu, à cette transformation, des échos extrêmement positifs. Donc, nous continuons avec un thème qui est, cette année, particulièrement évident. Deuxième remarque, pour ramasser quelques éléments supplémentaires à ce qu'a dit Bertrand, la caractéristique des nouvelles guerres, outre leur déplacement géographique, c'est la différence avec celle d'avant, qui était essentiellement des guerres entre États, et qui aujourd'hui sont des guerres internes, souvent avec une dimension ethnique ou religieuse, ou même les deux. Deuxièmement, les enjeux de ces guerres, on y retrouve bien sûr la maîtrise des richesses naturelles, ça n'est pas nouveau, mais on y retrouve surtout la lutte entre un État et une ou plusieurs guérillas pour le pouvoir, ou aussi pour le territoire en question. Troisièmement, je dirais qu'il y a dans ces guerres une forme de décomposition des États et des sociétés, ce que disait Bertrand.
La désintégration par le haut et la désintégration par le bas.
Par en haut et par en bas. Autres éléments importants, c'est au niveau des victimes. Autrefois, dans les siècles passés, les victimes des guerres étaient essentiellement des soldats ou des mercenaires. Aujourd'hui, depuis notamment les deux guerres mondiales du XXe siècle, nous avons comme victimes à 80 ou 85% des civils. Et qui dit civil dit les femmes, avec l'utilisation du viol comme arme de guerre, et les enfants, avec ces centaines de milliers d'enfants soldats privés de tout ce à quoi un enfant a droit. Et ces phénomènes massifs qu'on voit par exemple en Irak ou en Syrie, de déplacés, de réfugiés, d'exilés à l'étranger. Bref, on a vraiment une typologie des guerres d'aujourd'hui qui est très différente de ce qu'ont été dans le passé les guerres clausewitziennes ou schmittiennes. Voilà.
Alors, on reviendra sur les ruptures et où elles se positionne la rupture. Vous évoquez la Deuxième Guerre mondiale, on évoque aussi donc la fin de la guerre froide plus tard et puis le 11 septembre. Mais avant cela, juste une géographie rapide des guerres, et vous nous direz, Bertrand Badi, si finalement elles ont tendance à se multiplier, les guerres, ou au contraire à diminuer. Donc c'est en Afrique que l'on recense le plus de guerres et de conflits, c'est ce que vous dites dans l'état du monde. La République de Centrafrique, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, la Libye, la Mauritanie, le Mali, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, la Somalie, le Soudan et l'Ouganda.
Le Congo.
Vient ensuite l'Asie avec 13 conflits, l'Afghanistan, le Cambodge, Thaïlande, Inde, Myanmar, anciennement Birmanie, Pakistan, Philippines, Tadjikistan, Thaïlande, et puis avec les conséquences des printemps arabes, le Moyen-Orient qui a vu croître le nombre de ces conflits. Finalement, qu'est-ce que l'on constate? Une diminution ou une augmentation des conflits, Bertrand Badi?
Alors, d'abord, quelque chose de très important, qui paraît évident, mais dont on n'a pas su tirer toutes les conséquences, c'est que, pour la première fois depuis 300, 400 ans, depuis que la modernité, ou ce qu'on appelle telle, existe, l'Europe n'est pas le champ de bataille du monde. Et ça, c'est colossal. Pourquoi c'est colossal? Parce que la diplomatie occidentale, qui se veut très active face à ces nouvelles guerres, fait comme si on pouvait gérer ces nouvelles guerres qui appartiennent à d'autres histoires et à d'autres sociétés, de la même manière que si on les avait sur son propre sol. Ça, c'est un point important. Sur le plan quantitatif, alors là, je crois qu'il faut être très très prudent. Il faut être très prudent parce que il est très difficile d'abord de faire le partage entre ce qui est une guerre et ce qui ne l'est pas. Les statistiques doivent être prises avec prudence. Comme le disait Dominique il y a un instant, la fusion de plus en plus forte et préoccupante d'ailleurs entre le civil et le militaire fait qu'un événement social violent peut être autant qualifié de mouvement social qui dégénère que de guerre. Donc on est là aussi face à une incertitude que les statisticiens ne savent pas, ne peuvent pas maîtriser. Par ailleurs, ce mot terrible que je vais prononcer, qui est celui de nécrométrie, c'est-à-dire compter le nombre de morts, devient extraordinairement difficile à cause, d'une part, de cette fusion dont je parlais il y a un instant, mais aussi parce que les facteurs indirects de décès sont devenus quelque chose de très très important. C'est-à-dire un enfant qui meurt faute de soins dans un pays soumis à embargo ou qui est dans une situation de guerre, doit-il être comptabilisé parmi les victimes ou pas? Alors, dans un premier regard, les statisticiens ont tendance à dire que le nombre de guerres et l'intensité de celles-ci tendent à diminuer. Évidemment, si vous comparez
guerre interétatique en
à l'Holocauste, qui était la Seconde Guerre mondiale, on admet que, effectivement, nous sommes dans une situation plus pacifiée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de constater que l'effet de diffusion, l'effet, en quelque sorte, tache d'huile de cette nouvelle violence internationale fait qu'on est aujourd'hui face à une situation de conflictualisation en fait beaucoup plus généralisée que ce n'était le cas dans notre vieux système westphalien. On est aussi, et ça il faut en parler, face à des situations qu'on appellera production de sociétés guerrières. Vous n'avez des pays qui, depuis l'indépendance, n'ont vécu que dans la guerre. La République démocratique du Congo est pratiquement en guerre incessante depuis 1960. Vous savez que la guerre civile au Congo a commencé une semaine après la déclaration d'indépendance. Donc c'est quand même quelque chose de très frappant de voir ces pays s'installer dans des guerres durables où la guerre est une façon de vivre. C'est ça qui est paradoxal et effrayant. Congo, Somalie, Afghanistan, peut-être demain sera-t-on convaincu que Libye, Mali, dont on a dit avec une naïveté insolente que c'était terminé, que la France avait fait le travail, et on voit repousser ces logiques conflictuelles. Pourquoi ? parce que ces logiques conflictuelles ne sont pas seulement des choix stratégiques. Ces logiques conflictuelles sont enracinées dans des sociétés qui vont mal et qui ne sont jamais soignées. Alors effectivement, c'est un peu ce que l'on appelle en médecine les longues maladies. Eh bien voilà, il y a 20, 30, 40, peut-être plus pays au monde qui sont atteints de longues maladies qui les installent dans des sociétés guerrières, de sociétés guerrières.
Donc les pathologies sociales, c'est un terreau particulièrement propice, Dominique Vidal.
Absolument, mais je voudrais avant revenir sur une des réflexions qui parcourt l'introduction de Bertrand et le livre tout entier. C'est l'idée qu'au fond, l'actualité le montre d'ailleurs, la notion même de guerre devient un point d'interrogation. Prenez Gaza, les 50 jours de cet été. Évidemment, Israël a réussi, si l'on peut dire, à porter des coups terribles à la population de Gaza. 2150 morts, dont 70% de civils, dont 500 enfants mineurs, 100 000 sans logis, pour 7 milliards de dollars de destruction, enfin, quelque chose de terrible. Et pourtant, Israël n'a pas gagné cette guerre. Et d'ailleurs, les Israéliens en sont parfaitement conscients. Ils reprochent à Benjamin Netanyahou de ne pas avoir gagné cette guerre.
Et on ne gagne plus les guerres.
Et ça fait un moment qu'Israël ne gagne plus les guerres alors que c'est la 4e ou 5e armée du monde. Extrêmement entraînée, équipée, etc. Prenez Daesh. Tout le monde sait, enfin en tout cas tous les observateurs sérieux, que Daesh est le produit de l'intervention américaine anglo-saxonne de 2003 avec ce qui a suivi, c'est-à-dire la dissolution du BAS, la dissolution de l'armée irakienne,
l'exclusion
quasiment totale des sunnites par le pouvoir chiite mis en place par les Américains. Et voilà que face à l'offensive de Daesh, on répond par la guerre. Donc pour en finir avec le produit d'une guerre, on déclenche une autre guerre. On voit là que quelque chose ne va pas dans la réflexion d'un grand nombre de géopoliticiens, mais aussi de dirigeants. Et c'est, entre nous, encore plus inquiétant que les dirigeants eux-mêmes n'aient pas compris cette réalité. De la même manière, le peuple syrien est victime d'une guerre que le régime a voulu, qu'il a alimentée. On sait très bien que le régime ne tape pas sur Daesh, mais tape plutôt sur les opposants modérés. On sait très bien que Daesh ne tape pas sur le régime. Il y a toute une série de jeux d'alliances extrêmement complexes au Proche-Orient. On pourrait parler de la Turquie, on pourrait parler des pays du Golfe, de l'Iran, etc. Mais à quoi bon cette guerre qui n'aboutira certainement pas à régler les problèmes d'une société syrienne qui a effectivement besoin de réformes économiques, sociales, mais aussi politique et institutionnelle profonde. Donc on est devant une situation de questionnement de la notion même de guerre. On aurait pu mettre « nouvelle guerre » point d'interrogation pour souligner le doute qui nous saisit devant cette réalité. Sur le nombre, juste un mot, les statistiques sur lesquelles nous travaillons, sur lesquelles j'ai travaillé pour un des articles que j'ai fait, s'arrêtent en 2011, parce qu'il n'y en a pas depuis, de statistiques du CIPRI, qui est un source relativement intéressante. Mais outre les problèmes qu'a signalé Bertrand, c'est-à-dire le fait que on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'on classe dans les conflits et qu'est-ce qu'on n'y classe pas, de toute façon, 2011, c'est avant cette espèce de tsunami qui a touché l'ensemble du monde arabe. Et là, on a une série de conflits nouveaux où... en tout cas beaucoup plus forts qu'ils n'étaient, Syrie, Irak, Yémen. On pourrait parler de l'Égypte, vu le nombre de morts fait la répression du régime de Sissi. La Libye, après la guerre de Bernard-Henri Lévy et de son ministre des Affaires étrangères, qui était Alain Juppé, je crois, c'est ça ? C'était son secrétaire d'État, oui. Et bref, on est devant quelque chose qui mérite vraiment réflexion.
Alors, pour ajouter au questionnement, et on reviendra dans la deuxième partie de l'émission sur ce que vous évoquiez à l'instant, Dominique Vidal, notamment la guerre contre l'organisation de l'État islamique, Daesh, au Proche-Orient. J'ai cette question, Bertrand Badi, quant à ce questionnement. Est-ce que finalement, chaque étape du progrès que le monde connaît, alors la notion de progrès est encore quelque chose sur lequel on pourrait disserter longtemps, mais en tout cas avec les nouveaux besoins qui y sont attachés, est-ce que finalement tout cela ne nous conduit pas vers davantage de possibilités de faire la guerre ?
Alors, d'abord, est-ce que c'est faire la guerre, hein ? N'oublions jamais le lien très intime qu'il y a eu dans l'histoire occidentale entre la construction de l'État et l'invention ou la réinvention de la guerre. Ce lien très très intime qui a permis à l'État de se développer, de s'institutionnaliser, de gagner en autorité, de pouvoir procéder à la généralisation de l'impôt, à la construction de la bureaucratie et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, on ne déclare plus les guerres, on ne négocie plus la fin des guerres, il n'y a plus de traité de paix, c'est une idée historique ça maintenant, et plus personne ne gagne une guerre. Est-ce que, mis à part la guerre des États-Unis contre Grenade en 1983, vous connaissez un exemple clair d'une guerre gagnée. Donc, on est dans une situation où moi je préfère parler de violence diffuse, de violence internationale diffuse, et admettre que cette violence internationale diffuse n'est pas à mettre sur le compte des stratèges comme les guerres d'hier, du temps de Bismarck, du temps de Clausewitz, du temps de Louis XIV, où effectivement les coalitions étaient raisonnées, où les guerres avaient pour fonction de rétablir des équilibres de puissance en Europe. Là, on est dans les stigmates de sociétés profondément malades. Alors, si on ne prend pas en compte ce facteur, si on continue à traiter ces violences nouvelles comme les guerres d'autrefois, on passe à côté des causes. Et aujourd'hui, l'urgence, c'est quoi? Eh bien, c'est d'essayer de faire au niveau de la mondialisation ce qu'on a essayé de faire au XIXe siècle au niveau des nations. C'est-à-dire créer les conditions d'une intégration sociale minimale, mais cette fois-ci sur le plan international, pour faire en sorte que cette violence sociale ne se continue pas à se diffuser. Regardez la carte des IDH, des indices de développement humain en Afrique, et regardez la carte des conflits en Afrique, c'est la même. Or, qu'a-t-on fait de sérieux pour réformer les sociétés, les institutions en Afrique depuis le début du processus de décolonisation? Absolument rien. Donc mécaniquement, cette violence, non seulement elle va se pérenniser, mais elle va se renforcer et elle fait le jeu de ces entrepreneurs de violence qui viennent s'installer là où il y a une clientèle potentielle. Dominique faisait référence tout à l'heure à une des choses les plus atroces qui soit dans notre monde actuel, qui sont les enfants soldats. Entre 300 000 et 500 000, hein, quand même, dont la chance aujourd'hui de survie passe par l'enrôlement dans des milices. C'est terrible de dire ça, ça vous écorche la bouche, mais ça montre bien ce qu'est devenu une société guerrière et comment une pathologie sociale non traitée aboutit à cette violence échevelée, déchaînée, dont nous sommes les otages. Alors, essayez d'envoyer l'OTAN pour arrêter tout ça. Essayez d'envoyer les chars et de menacer de missiles face à ces tragédies sociales. Et effectivement, vous faites se frotter les mains les entrepreneurs de violence qui disent, vous voyez, ce que fait l'Occident, c'est-à-dire nous chasser au sens du chasseur de manière effectivement la plus injuste et inadéquate qui soit.
Dominique Vidal, les entrepreneurs de violence et les visages de ces entrepreneurs de violence qu'évoque à l'instant Bertrand Badi, ils sont multiples?
Ils sont multiples et plusieurs articles de l'État du Monde y sont consacrés. Évidemment, en tout premier lieu, les vendeurs d'armes. On est, et là, les chiffres sont précis, devant une remontée des ventes d'armes, que ce soit des armes de forte puissance ou que ce soit des armes légères. On peut même dire qu'il y a une espèce de boom des ventes d'armes légères parce qu'elles sont adaptées au type de conflit dont parle Bertrand, c'est-à-dire des sociétés déchirées où telle ou telle faction s'oppose. Là, évidemment, les armes légères comptent plus que les tanks ou les chasseurs, qu'il s'agisse de MiG ou de chasseurs occidentaux. Donc on est devant une vraie bonne affaire pour ces milieux et qui sont nombreux et qui changent. On a vu, par exemple, je le signale dans mon article, Israël pointer son nez pendant une année, en 2012, parmi les 5 premiers vendeurs d'armes.
On poursuivra, Dominique Vidal, dans la deuxième partie de l'émission sur ces entrepreneurs de violence géopolitique. Nous retrouvons nos invités, Bertrand Badi et Dominique Vidal, dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'état du monde dont la dernière édition, l'édition 2015, vient de paraître sous le titre Nouvelle guerre. Nous retrouvons nos invités Bertrand Badi et Dominique Vidal qui ont donc dirigé cette édition 2015. Bertrand Badi est professeur des universités à Sciences Po Paris. Dominique Vidal est journaliste et historien. Dominique Vidal, on a terminé la première partie de l'émission sur ces entrepreneurs de violence qui ont tendance à proliférer de par le monde avec des visages somme toute assez différents, et on évoquait la production et la vente des armes qui est un secteur particulièrement dynamique. Dominique Vidal.
Absolument, je crois avoir essayé de vous répondre tout à l'heure. Je voudrais qu'on revienne en arrière sur un point qui me paraît très important, qui est le contraste entre ce paysage des nouvelles guerres et ce qu'était la guerre froide. Parce que il y avait du temps de la guerre froide beaucoup de questions posées, sociales, politiques, économiques, qui existent aujourd'hui, qui se sont certainement aggravées. Et pourtant, la gestion bipolaire soviéto-américaine du monde permettait d'encadrer toutes ces guerres. On avait une espèce de conscience chez les alliés de l'un et de l'autre de la nécessité de ne pas aller trop loin. On parlait des enfants soldats, il n'y avait pas d'enfants soldats à l'époque. On parlait de viol des femmes, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais ça n'était pas
aussi devenu généralisé.
Une arme de guerre généralisée comme c'est le cas aujourd'hui. Je ne dis pas ça du tout par nostalgie de la guerre froide, parce qu'on oublie souvent que la guerre froide a été très meurtrière. Il y a eu beaucoup de petits conflits qui ont, ou grands conflits, qui ont coûté des millions et des millions de morts au total. Une trentaine au bas mot de millions de morts. Mais depuis la guerre froide, paradoxalement, aucun système n'a remplacé la gestion bipolaire du monde. C'est-à-dire qu'on est entré, après une période d'euphorie unipolaire, où certains pensaient que les États-Unis allaient gérer le monde comme ils l'entendaient, on s'est aperçu que l'ONU était pour l'essentiel bloquée. Que le système du Conseil de sécurité trustant l'essentiel des pouvoirs, avec en son sein une surreprésentation de l'Occident, avec le droit de veto pour les cinq puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale. Bref, tout cela a bloqué, gelé l'ONU, et on est en fait devant un monde qui est en quête d'un nouveau système de gestion internationale qui, fort heureusement, a quelques éléments de base dans l'existence même de l'ONU, mais qui suppose une réforme en profondeur de l'organisation internationale. Sinon, on ne voit pas qui pourrait mettre fin à cet engrenage de guerre, de conflit dont on a parlé. Certainement pas l'OTAN, certainement pas tel ou tel pouvoir. L'ONU elle-même, on la voit impuissante, y compris sur le conflit israélo-palestinien, sur lequel pourtant elle a accumulé un très grand nombre de résolutions qui ne sont pas mises en œuvre. Bref, on est devant une vraie question de gestion du monde d'aujourd'hui.
Bertrand Badi, je reviens quelques instants sur les entrepreneurs de violence pour poursuivre un tout petit peu. On évoquait avec Dominique Vidal l'idée que effectivement les ventes d'armes avaient beaucoup progressé. Les mafias sont aussi très bénéficiaires, de grands bénéficiaires de ces situations de conflits plus ou moins larvés, de guerres.
Oui, bien sûr, mais ne nous trompons pas dans l'ordre des facteurs. La notion d'entrepreneur de violence renvoie à quelque chose de très simple, c'est que l'acteur de ces conflits n'est plus principalement l'État, ça a déjà été dit dans cette émission, mais des acteurs non étatiques qui ont fait presque profession d'offreurs de violence. Et Al-Qaïda, ACMI, l'État islamique en Irak et au Levant en sont de parfaits représentants. Que ces acteurs viennent ensuite rencontrer les mafias, parce que il y a effectivement des intérêts à partager, parce que c'est une façon de financer des mouvements qui sont effectivement coûteux, parce que c'est une façon de bénéficier de réseaux. Nous sommes dans un monde où le réseau est plus efficace que l'action frontale. Tout ceci fait qu'effectivement il y a des connexions entre mafias et entrepreneurs de violence. Mais au centre de l'idée d'entrepreneur de violence, il y a quelque chose de très important que soulignait Dominique tout à l'heure, qui est que toute notre grammaire, non seulement de la guerre, mais de la paix, se trouve périmée. Parce que notre grammaire de la guerre et de la paix, c'était on fait la guerre contre des États et on négocie ensuite avec des États. Et puis, il y a eu, lent à se manifester, mais aujourd'hui tout à fait au centre de la scène, des acteurs sociaux, des acteurs non étatiques. Alors ça vient de très loin. Déjà des guerres de la Révolution, où les sociétés se sont senties impliquées dans des guerres qui les excluaient complètement jusque-là. Les deux guerres mondiales, et notamment la seconde, qui a marqué l'entrée massive des sociétés et des acteurs sociaux dans le jeu, ce qui rendait déjà difficile la solution de ces conflits, parce que c'est beaucoup plus difficile d'arrêter une guerre dans laquelle les sociétés sont impliquées qu'une guerre où finalement, entre cousins rois, on pouvait négocier à tout moment leur achèvement. Et aujourd'hui, par le truchement de ces événements dont il ne faut pas oublier l'importance que sont les mouvements de décolonisation et les guerres de décolonisation, on est arrivé à un jeu où les principaux acteurs n'appartiennent pas à la grille des États. Avec une réaction obsessionnelle de la part des États, on ne parle qu'avec des États. Et encore, il y a beaucoup d'États et de plus en plus avec lesquels on ne parle pas. C'est-à-dire cette diplomatie d'exclusion qui est un véritable cancer de notre diplomatie moderne, où maintenant on ne négocie qu'avec son semblable, qu'avec celui avec lequel on s'entend totalement. C'est absurde, alors que le propre de la négociation, c'est de rencontrer celui qui, justement, a un différend avec vous, et donc avec qui on va essayer de trouver des éléments de solution et de négociation. Mais alors, dès qu'il s'agit d'acteurs non étatiques, alors là, on voit tout un tas de simagrées s'afficher sur le diplomate traditionnel qui vous explique qu'en aucun cas, on ne peut négocier, etc. C'est doublement absurde, parce que l'histoire a montré qu'on finit toujours par négocier avec celui qu'on a en face. Rappelez-vous, au moment de la décolonisation, il n'était pas question de négocier avec le FLN, parce que ces gens-là étaient des terroristes, et puis les accords d'Évian, c'est bien avec le FLN qu'ils ont été conclus. Bon, on sait maintenant qu'il y a déjà des États, en tout cas de la région, qui négocient avec Daesh. Quand des soldats libanais ont été enlevés à la frontière syro-libanaise, eh bien le gouvernement libanais a négocié avec Daesh. Donc ce n'est pas non plus aussi réaliste et utopiste qu'on le dit, mais surtout, pour l'instant, ça nous met dans une situation de parfait blocage. Avez-vous remarqué qu'il y a un vieil instrument de la politique internationale qui était totalement remisé jusqu'à il y a un an et demi, qui s'appelle la négociation? La négociation était passée de mode. Ça a évoqué les temps héroïques, non pas du XXe siècle. On a assez peu négocié. Rappelez-vous que la Première Guerre mondiale a été arrêtée par la paix de Versailles, qui n'a pas été négociée avec l'ennemi, ce qui était quand même une première. Bon, on a retrouvé des bribes de négociation avec l'Iran, mais bon, on peut pas dire que ça se passe non plus très très bien. Et pourtant, tout devrait favoriser cette relance des négociations. Des bouts de négociation avec la Russie, qui semble maintenant à nouveau aussi mal engagée, on ne sait plus négocier. Et alors, on est dans un contexte, et ça c'est très important parce que les entrepreneurs de violence jouent un rôle de ce point de vue-là, où il n'y a plus d'ennemis, il y a des criminels. C'est-à-dire, celui qui est en face de vous, c'est un criminel. Donc on ne négocie pas avec un criminel, on le juge, on le punit, ou comme l'a dit un chef d'État célèbre, on le détruit. Alors, par parenthèse, détruire des enfants soldats, je trouve que c'est pas très héroïque, mais c'est une autre affaire. Et donc, cette criminalisation de l'autre, même si sur le plan éthique, elle peut être parfaitement justifiée, de même qu'il y a beaucoup d'États criminels, y compris dans ceux qui jugent que les terroristes sont des criminels, mais toujours est-il que cette criminalisation de l'autre empêche la négociation, et en empêchant la négociation, eh ben, nous sommes dans la situation actuelle, c'est-à-dire on ne sait pas quoi faire. À nouveau, la paix est sortie des écrans radars.
Alors Bertrand Badie, je rebondis sur ce mot que vous avez souvent employé depuis le début de cette émission, c'est l'État. J'en viens à Daesh, qui se présente comme l'État islamique. Ça n'est pas un hasard, Dominique Vidal?
Certainement pas, et d'ailleurs les choses sont plus complexes qu'on le dit. Daesh, ça n'est pas seulement un groupe terroriste avec des mœurs barbares, un grand sens de la communication.
Ah oui.
La manière de décapiter ses otages a évidemment un but politique, qui est d'entraîner les États-Unis et les puissances occidentales sur le terrain. Daesh espérant profiter de cet engagement pour mobiliser très largement parmi les sunnites. Mais Daesh est aussi une organisation du terrain avec des dirigeants de villes, avec une capacité à résoudre certaines questions des populations. Bref, on est dans quelque chose de complexe, y compris à propos des entrepreneurs de violence. Il faut faire très attention qu'il n'y a pas dans tout cela de chef d'orchestre clandestin. Il n'y a pas dans tout cela d'acteur qui est derrière les coulisses et qui organise tout ce chaos. Non, c'est un ensemble de facteurs extrêmement imbriqués avec des alliances invraisemblables. L'alliance, en l'occurrence, qui peut ou non contribuer à faire reculer Daesh, c'est une alliance à laquelle l'Iran participe. C'est une évidence. Mais comme le disait Bertrand, si on ne parle pas avec l'Iran, ou si on attend que l'Iran ait renoncé à toute ambition de programme nucléaire, que ce soit un programme pacifique ou non, c'est une autre affaire, on n'y arrivera pas. On a besoin que la Turquie intervienne. Mais la Turquie, elle, se préoccupe essentiellement de la question kurde chez elle. Et de poursuivre, comme on le voit ces derniers jours, le PKK. La Turquie a repris son offensive contre le PKK. Donc on est devant des contradictions extrêmement difficiles à démêler, et on ne peut pas aller là-dedans à la serpe avec des explications très déterminantes. C'est vraiment un véritable chaos. Il y a quelques années, Ignacio Ramonet, qui était directeur du Monde diplomatique, avait sorti un livre qui s'appelait « La géopolitique du chaos ». On est dans une géopolitique du chaos, de toute évidence, en particulier au Proche et au Moyen-Orient.
Alors justement, Bertrand Badi, je me tourne vers vous. Est-ce que ce chaos qu'évoque Dominique Vidal à propos de ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient pourrait finalement marquer une sorte de tournant dans la prise de conscience des dysfonctionnements? Vous évoquez l'idée de pathologie sociale, d'absence de négociation. Est-ce qu'on n'est pas là? Et on voit, je pense à ce général américain, ancien candidat à la présidence pour les États-Unis en 2004, le général Wesley Clark, qui vient de sortir un ouvrage sous le titre « N'attendez pas la prochaine guerre ». Il pointe du doigt cette incapacité des États-Unis à faire autre chose que la guerre pour régler les problèmes. Est-ce qu'on peut imaginer que ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient pourrait marquer un tournant? Alors, c'est espéré, bien sûr, mais est-ce que, voilà.
Vous avez raison de poser le problème. On aurait besoin d'un New Deal international, mais le New Deal des années 30 a impliqué la personnalité de Franklin Roosevelt. Est-ce que Barack Obama a la carrure d'assurer ce New Deal? La réponse n'est pas totalement négative non plus. Je crois qu'il faut se féliciter qu'à la tête des États-Unis se trouve un Barack Obama et non un George W. Bush, qui, face à la situation que nous connaissons actuellement en Irak, aurait réalisé un nouveau surge, comme on disait, et aurait inondé l'Irak de GIs avec tous les effets catastrophiques que l'on connaît. Est-ce que Barack Obama pouvait éviter ces frappes aériennes? C'est très difficile quand on est président de la superpuissance et que, par une mise en scène que rappelait justement Dominique, Daesh décapite devant l'opinion publique internationale des citoyens américains. Que dirait-on d'un président des États-Unis qui dirait « bon ben attendons que ça passe ben, », c'était pas possible. La manière dont il retient la réaction et ne s'engage pas fleur au fusil dans un conflit généralisé est déjà un élément positif. Mmh. Je crois que Barack Obama est le premier président des États-Unis à commencer ce travail de prise de conscience. Il n'est pas non plus seul. Les intellectuels, les universitaires américains, les spécialistes américains de relations internationales sont beaucoup plus avancés que nous dans la découverte de cette nouvelle page des relations internationales qui ne rime plus forcément avec leadership, unipolarité, usage de la puissance, de la guerre, etc. Bon, moi, ce qui me chagrine, c'est que l'Europe est très à la traîne dans cette réflexion, qu'il n'y a pas un homme d'État en Europe pour dire « attention, il faut peut-être prendre les relations internationales différemment ». Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est sous-jacent. L'opinion publique est plus sage que les dirigeants. L'opinion publique sait confusément que l'intervention militaire n'est plus la panacée universelle. Elle sait retenir ses dirigeants. Certains pays comme l'Allemagne savent sagement et prudemment se tenir à l'écart. En France, la réflexion est à peine amorcée. Nous sommes en train de vivre avec 10 ans de retard le contre-coup du néoconservatisme américain. Nous regardons le monde avec des lunettes qui n'ont plus aucun sens. On s'est fait une gloire de ce que nous avons réalisé au Mali et en République centrafricaine. L'échec est déjà patent en République centrafricaine et on voit au Mali l'histoire se recomposer un peu comme elle était avant janvier 2013, ce qui prouve que le traitement à l'aspirine des grandes maladies n'est pas le bon traitement non plus.
Mais on se donne bonne conscience, Bertrand
Badie. On se donne bonne conscience et surtout, on ne veut pas voir. Et derrière le « on ne veut pas voir », ce n'est pas tellement l'obscurantisme que je vise, c'est la peur. La peur d'abord de l'innovation et la peur, en jetant un autre regard sur les relations internationales, de remettre en cause des acquis que l'on ne veut pas voir disparaître, c'est-à-dire une conception classique de la défense. C'est quand même incroyable que face à tous les périls du monde, la grande question qu'on pose en France, c'est est-ce que ça va pas mettre en danger le budget de la défense? Bah, le budget de la défense, c'est un instrument, c'est-à-dire il doit suivre la réflexion que l'on mène sur le monde, laquelle n'est pas menée, et c'est très très préoccupant. Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de visionnaire, il n'y a pas d'homme d'État en France.
Ce qui est extraordinaire, c'est de voir les dirigeants français réagir aux décisions de Barack Obama en disant « Ah ben, vous l'avez bien dit qu'il fallait aller en Syrie il y a un an ». On est vraiment au niveau zéro de la réflexion stratégique. Je crois qu'effectivement, Barack Obama restera, en tout cas, quoi qu'il arrive, dans l'histoire, comme le premier président américain qui, après deux longs mandats de George W. Bush, a mis fin à cette espèce d'hubris, de vertige de la puissance et a commencé à retirer les États-Unis du bourbier irakien, du bourbier afghan, bref, à ramener les États-Unis à la réalité de leurs moyens et du monde tel qu'il est aujourd'hui. Mais en même temps, c'est clair que l'affaire irakienne et syrienne est de l'ordre du contre-pied pour Barack Obama. Il y a là un risque, si il ne parvient pas, comme le disait Bertrand, à limiter l'intervention, à remettre en cause tout ce qui a été acquis pendant ces deux mandats. Donc on est devant quelque chose de très fragile, je crois, d'autant que on ne peut pas être satisfait, par contre, de l'agressivité des États-Unis et de l'Europe à l'égard de la Russie. On peut penser ce qu'on veut de Vladimir Poutine, mais l'idée de redéclencher une guerre européenne à travers un affrontement aux limites du conflit, c'est une idée complètement absurde, enfin qui va à l'encontre de tout ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour trouver avec la Russie une coopération qui soit une coopération sérieuse et pas seulement pour le gaz.
Bertrand Badie.
Oui, je crois que en fait, ce qu'il faut, c'est regarder le monde, non pas en s'imaginant a priori qu'il est fait à notre propre image. C'est-à-dire que ce qui se passe en Irak répète en quelque sorte ce que nous avons vécu au XVIIIe ou au XIXe siècle. Il faut regarder le monde et construire l'altérité. L'autre, de toute façon, ne nous ressemblera jamais. Et le fait d'admettre l'altérité, ça ne veut pas dire de l'approuver, ça ne veut pas dire de la légitimer. Et c'est là toute l'ambiguïté de ces nouvelles guerres. C'est que ce sont des guerres aveugles, c'est-à-dire où aucun des protagonistes ne regarde l'autre. Ce qui, effectivement, est la pire des situations pour construire la paix. Regarder l'autre, c'est aussi ne plus avoir ce réflexe terrible qui consiste à dire à chaque fois qu'il y a un incendie qui démarre dans le monde, c'est de notre responsabilité d'aller l'éteindre. Non, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que les acteurs locaux aient les moyens de l'éteindre. Nous ne sommes pas les gendarmes du monde, ne serait-ce que parce que il y a une gendarmerie que l'on n'utilise pas. Comment imaginer que l'intervention en Irak a été décidée à un sommet de l'OTAN au Pays de Galles et non par une discussion au Conseil de sécurité, sachant qu'il y a une marge de négociation avec la Russie sur ce sujet, qui est d'autant plus évidente que la Russie n'a aucun intérêt à voir un État islamiste poussé à ses pieds, en quelque sorte, c'est-à-dire au Caucase, et où finalement une marge de négociation existait avec elle, comme elle existe avec l'Iran. Mais négocier aujourd'hui, ça fait ringard.
Construire l'altérité, c'est ce que je retiendrai en conclusion de cette émission. Merci à nos invités, Bertrand Badie, professeur des universités à Sciences Po Paris, auteur de nombreux ouvrages sur les relations internationales, dont le dernier, Le temps des humiliés, récemment reçu le prix des géopolitiques de Nantes, et Dominique Vidal, journaliste et historien, auteur également de nombreux ouvrages sur le Proche-Orient. Tous deux étaient réunis sur l'état du monde 2015, Nouvelle Guerre, qui vient de paraître aux éditions La Découverte. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand, Nathalie Laporte. À très bientôt.